Chapitre 16. Madame Bennet, approuvant l'engagement de ses filles avec leur tante, les scrupules de M. Collins de quitter tout un soir ses hôtes furent levés par les arguments de la compagnie entière. Et aussitôt après le dîner, lui et ses cinq cousines se rendirent en voiture à Meryton. Ces demoiselles eurent le plaisir, en entrant au salon, d'apprendre que M. Wickham avait accepté l'invitation de leur oncle et était encore à table avec les autres convives. Après quelques commentaires sur cette heureuse nouvelle, tout le monde s'étant assis, M. Collins eut le loisir de regarder et d'admirer tout ce qui l'entourait. Frappé de la grandeur de l'appartement, de la beauté des meubles, il déclara qu'il croyait être dans un des boudoirs de Rosings, exclamation qui d'abord ne fut pas appréciée de Madame Phillips, mais lorsqu'elle eut appris ce que c'était que Rosings, à qui appartenait cette terre, quand elle eut écouté la description entière de l'un des salons de Lady Catherine, sachant alors que le marbre seul de la cheminée coûtait 800 livres sterling, elle sentit toute la valeur du compliment, et se serait à peine formalisée de la même comparaison avec l'appartement de la femme de charge. Ensuite, dépeignant à Madame Phillips toutes les magnificences du château de Rosings, non sans quelques digressions sur son humble demeure et les embellissements qu'on y faisait, il fut agréablement occupé jusqu'à l'arrivée des messieurs. Elle l'écoutait avec non moins de satisfaction, son estime pour lui augmentait à chaque nouveau détail, et elle se promettait bien de faire partager à ses voisines l'admiration que lui causaient ses récits. Quant aux demoiselles qui ne pouvaient s'amuser autant des discours de leur cousin, l'attente leur sembla fort longue. Elle eut un terme enfin. Les messieurs revinrent au salon, et quand M. Wickham parut, Elisabeth pensa qu'elle ne l'avait encore que faiblement admiré. De tout le régiment de R, en général bien composé, ce qu'il y avait de mieux parmi les officiers se trouvait là réuni, mais aucun ne pouvait se comparer à Wickham, autant supérieur à eux tous pour le ton et les manières qu'ils l'étaient eux-mêmes au joufflu procureur Phillips qui les suivait au salon. Monsieur Wickham fut l'heureux mortel qui fixa sur lui les regards de presque toutes les dames. Et à Elisabeth, l'heureuse femme près de laquelle il s'assit enfin, l'air dont il se mit à causer avec elle du mauvais temps, de la crainte d'avoir un hiver pluvieux, il fit sentir qu'un homme aimable sait se rendre intéressant sur le sujet le plus mince et le plus ordinaire. De tels rivaux près des dames semblaient anéantir le pauvre monsieur Collins. Les jeunes personnes l'oublièrent entièrement, mais de temps en temps Madame Phillips l'écoutait encore avec plaisir, et par ses soins il fut abondamment servi de thé et de muffins. Quand on se mit au jeu, il la paya de ses intentions en faisant le quatrième au whist. « Je joue peu le whist, dit-il, mais je serai charmé de le mieux apprendre, car dans mon état... » Sans vouloir entendre toutes ses raisons, Madame Phillips lui sut gré de cette complaisance. Monsieur Wickham, ne jouant pas le whist, fut accueilli avec transport à l'autre table, entre Elisabeth et Lydia. Celle-ci, extrêmement bavarde, semblait vouloir l'occuper exclusivement, mais le loto, qu'elle aimait aussi beaucoup, prit bientôt toute son attention. Monsieur Wickham eut donc le loisir de parler à Elisabeth, qu'il trouva très disposée à l'écouter. Toutefois, n'espérant pas apprendre de lui ce qu'elle désirait le plus savoir, l'histoire de ses liaisons avec Monsieur Darcy, elle hésitait, n'osant entamer ce sujet, quand la conversation s'y portant d'elle-même satisfit sa curiosité. Monsieur Wickham, après s'être informé quelle était la distance de Netherfield à Meryton, demanda d'un air inquiet si Monsieur Darcy y était depuis longtemps. « À peu près depuis un mois, dit Elisabeth, et voulant continuer ce discours, elle ajouta, « On dit qu'il a de grands biens en Derbyshire. » « Oui, dit Wickham, sa terre est extrêmement belle, 10 000 livres sterling de rente. Personne mieux que moi n'en peut dire de nouvelles, j'ai eu dès mon enfance des plus étroites liaisons avec cette famille. » Elisabeth ne put cacher son étonnement. Cette assertion dans le fait a de quoi vous surprendre, mademoiselle, après l'air de froideur que vous avez pu remarquer dans notre rencontre d'hier. Êtes-vous très liée avec M. Darcy ? Peu et sans désirer l'être davantage. J'ai passé 4 jours dans la même maison que lui, il ne m'a point paru aimable. Je n'ai pas le droit de me prononcer, dit Wickham, sur son plus ou moins d'amabilité, dont ma situation à son égard ne me permet pas de juger. Je l'ai connu trop bien et trop longtemps pour être un juge impartial. Mais je crois que votre opinion sur son compte étonnerait bien des gens. Peut-être ne le diriez-vous pas partout avec cette franchise, vous êtes chez vos parents. En vérité, je ne dis rien ici que je ne puisse répéter dans toute autre maison, hormis Netherfield. Il n'est point aimé dans Hertfordshire. Sa fierté a blessé tout le monde, personne ne vous en parlera plus favorablement. Je suis plus surpris que fâché de ce que vous m'apprenez, dit Wickham, après un moment de silence. Il serait fort à désirer que chacun fût ainsi jugé selon son mérite, ce qui arrive rarement à M. Darcy. Le monde aveuglé par son rang et sa fortune, subjugué par ses manières hautaines, ne le voit que comme il veut être vu. Quant à moi, répondit Elisabeth, je le connais peu, mais assez néanmoins pour m'apercevoir qu'il n'a pas un caractère aimable. Wickham, par un mouvement de tête, parut approuver ce jugement et dit quelques instants après : Je voudrais bien savoir s'il doit rester longtemps dans ce pays-ci. Je ne puis vous le dire, mais lors de ma visite à Netherfield, il ne parlait point encore de le quitter. J'espère que son séjour dans Hertfordshire ne changera rien à vos projets. Oh non, ce n'est pas à moi de fuir M. Darcy. S'il craint de me rencontrer, qu'il s'éloigne d'ici. Nous ne sommes pas bien ensemble, et je ne puis le voir sans être vivement affecté. Mais je ne crains point de dire les raisons qui me font l'éviter. Un sentiment profond du mal qu'il m'a fait, et les regrets les plus pénibles en pensant à ce qu'il devait être pour moi. Son père, feu M. Darcy, était un homme bien respectable et le meilleur ami que j'ai jamais eu. Je ne saurais me trouver avec le fils sans que mon âme n'éprouve de bien douloureux sentiments. Il s'est conduit indignement à mon égard, mais je crois en vérité que je pourrais tout lui pardonner s'il n'avait trompé la tante et avili la mémoire de son père. Elisabeth, trouvant ce sujet de plus en plus intéressant, à chaque mot redoublait d'attention, mais la matière lui parut trop délicate pour qu'elle pût se permettre aucune question. M. Wickham passa alors à des choses plus indifférentes, parla de Meryton, du voisinage, des habitants, comme charmé de tout ce qu'il avait déjà vu, fit l'éloge de la société, surtout, avec une galanterie naturelle mais bien expressive. C'est l'espoir d'avoir toujours de la société, et une bonne société, ajouta-t-il, qui m'a décidé à entrer dans le régiment de R. Je sais que ce corps est fort bien composé. Mon ami Denis m'a séduit en me vantant leur garnison actuelle et les attentions sans nombre qu'on a pour eux à Meryton. La société, je l'avoue, m'est nécessaire. Trompé dans toutes mes espérances, je redoute la solitude et les réflexions qu'elle me cause. Il me faut non seulement de l'occupation, mais encore de la société. On ne m'a pas élevé pour être militaire, les circonstances seules me forcent à le devenir. Je devais embrasser l'état ecclésiastique, mes études pour cela étaient faites, et je serais maintenant en possession d'un très beau bénéfice si l'homme dont nous parlions tout à l'heure l'eût voulu. Vraiment ? Oui, feu Monsieur Darcy me légua la survivance du meilleur bénéfice dont il eut la nomination. Il était mon parrain et m'aimait tendrement. Je ne pourrais jamais rendre assez de justice à sa bonté. Il eut l'intention de fixer mon sort, il croyait l'avoir fait, mais lorsque la cure devint vacante, elle fut donnée à un autre. « Oh ciel !» s'écria Elisabeth, « est-il possible ? Son testament ne vous donnait-il pas des droits ? Que ne les faisiez-vous valoir ?» Un manque de formalité dans les termes de la donation m'ôtait tout pouvoir de réclamer. Un homme d'honneur n'eût pu douter des intentions de son père. M. Darcy voulut en douter et les regardait comme une simple recommandation conditionnelle à laquelle, selon lui, j'avais perdu mes droits par ma prodigalité, mon imprudence et tout ce qu'il lui plut d'ajouter. Il y a environ 2 ans, la cure vint à vaquer. Un autre que moi l'obtint. Cependant, je venais d'accomplir ma 25e année. Ainsi, à cet égard, il n'y avait nul obstacle. et je ne crois pas par ma conduite avoir mérité un tel affront. J'ai trop de franchise, je ne sais pas déguiser mes sentiments. J'ai peut-être eu avec lui trop de sincérité. Voilà, je pense, tout mon crime. Le fait est que nos caractères diffèrent absolument, et en un mot, il me déteste. Cela est affreux, il mérite d'être déshonoré. Un jour ou l'autre, il le sera, mais jamais par moi. Pour lui nuire ou le défier, il faudrait que j'oubliasse son père. » De tels sentiments gagnèrent l'estime d'Élisabeth et ajoutaient aux agréments qu'elle lui trouvait déjà. « Mais qui donc a pu l'engager, dit-elle, à se conduire aussi mal envers vous ? La haine qu'il me porte et que je ne puis attribuer qu'à des motifs de jalousie. Si feu Monsieur Darcy m'eût moins aimé, son fils ne m'aurait vu qu'avec indifférence, mais l'intérêt particulier que le père me témoignait a, de bonne heure, irrité celui-ci contre moi. Il n'était point d'une humeur à supporter l'espèce de rivalité qui existait entre nous deux, et encore moins les légères préférences qu'on m'accordait quelquefois. Je ne pensais pas que Monsieur Darcy fût d'une méchanceté si noire. Je ne l'ai jamais aimé, mais j'étais loin de le juger aussi sévèrement qu'il le mérite. J'avais cru qu'il méprisait les hommes en général, ne le soupçonnant pourtant pas capable de tant d'injustice et d'inhumanité, et surtout d'une si basse vengeance. » Après quelques instants de réflexion, elle reprit « En effet, je me rappelle, il se vanta un jour, c'était à Netherfield, que son ressentiment était implacable, que jamais il ne pardonnait. Son caractère doit être horrible. » « Ce n'est pas à moi qu'il appartient d'en décider, » répondit-il. « À peine puis-je me résoudre à être juste envers lui. » Ces mots plongèrent Élisabeth dans de nouvelles réflexions, et tout à coup elle s'écria « Traiter ainsi le filleul, l'ami, le favori de son père !» Elle eut volontiers ajouté « Et un jeune homme aussi aimable que vous l'êtes, et dont l'air seul annonce le caractère. » Mais elle se contenta de dire « Vous qui sans doute étiez le compagnon de son enfance. » Nous sommes nés dans la même paroisse, sous le même toit. Nos premières années se sont passées ensemble, partageant les mêmes plaisirs, objet des mêmes soins paternels. Mon père débuta dans la carrière où Monsieur votre oncle semble avoir acquis tant de réputation, mais bientôt il y renonça pour se rendre utile à feu Monsieur Darcy et consacrer son temps à la gestion de la terre de Pemberley. Monsieur Darcy, ayant pour lui la plus haute estime, le regardait comme son conseil, son intime ami. Il a souvent avoué que le zèle désintéressé de mon père lui avait rendu les services les plus essentiels, et lorsqu'au moment de la mort de mon père, M. Darcy s'engagea volontairement à prendre soin de ma fortune, je suis persuadé qu'en cela il agissait autant par reconnaissance envers lui que par attachement pour moi. « Chose incroyable !» s'écria Élisabeth. « La fierté seule devait rendre le fils juste envers vous. Comment s'avilir au point d'agir avec tant de mauvaise foi ?» J'en suis moi-même quelquefois surpris, répondit Wickham, car l'orgueil est la base de toutes ses actions. L'orgueil a souvent été son meilleur conseiller et lui a tenu lieu de vertu, mais un sentiment encore plus impérieux a influé sur sa conduite à mon égard. Un orgueil tel que le sien a-t-il jamais pu le porter au bien ? Oui, souvent. Il l'engage à être libéral, généreux, hospitalier, à assister ses fermiers et à secourir les pauvres. Un orgueil de famille. Il est fier de ce qu'était son père. Il craint par-dessus tout de perdre du crédit de sa famille, de voir diminuer l'influence de la maison de Pemberley. Il a aussi un orgueil fraternel qui, joint à l'amitié, le rend pour sa sœur un tuteur soigneux et zélé. Vous entendrez généralement parler de lui comme du meilleur et du plus attentif des frères. Et Mademoiselle Darcy ? Je voudrais pouvoir dire qu'elle est aimable, il m'est toujours pénible de mal parler d'une Darcy, mais malheureusement, elle ne ressemble que trop à son frère. Sa fierté aujourd'hui est intolérable. Étant enfant, elle fut bonne et gentille, elle m'aimait beaucoup, et alors je passais des heures à l'amuser. Maintenant, il ne m'en reste que le souvenir. Elle a 15 ou 16 ans, et avec de la beauté, on l'a dit, fort instruite. Depuis la mort de son père, elle vit à Londres avec une dame chargée de présider à son éducation. Après avoir essayé plus d'une fois de quitter ce sujet, Élisabeth ne put s'empêcher d'y revenir, et elle dit « Je m'étonne que M. Darcy soit si étroitement lié avec M. Bingley. Comment M. Bingley, qui paraît la bonté même, peut-il être ami d'un tel homme? Connaissez-vous M. Bingley?
Pas du tout.
C'est un homme fort aimable. Sans doute il ne connaît point le vrai caractère de M. Darcy.
Cela est croyable. Mais M. Darcy peut plaire quand il veut. Il ne manque point d'esprit et possède l'art de rendre une conversation intéressante.
Sa conduite envers ses égaux est bien différente de celle qu'il tient avec ceux que la fortune a moins favorisés. Son orgueil ne le quitte point, mais avec les gens riches, il est juste, sincère, d'excellent ton, et peut-être même, en lui tenant compte de sa fortune, pourrait-on le trouver aimable. La partie de whist ayant fini, les joueurs s'assemblèrent autour de l'autre table, et M. Collins vint se placer entre Elizabeth et Mme Phillips. Celle-ci lui demanda le succès de son jeu. Il avait perdu tous les points. Mais quand Mme Phillips voulut lui en témoigner ses regrets, il l'interrompit et l'assura d'un air grave que sa perte n'était pas de la moindre importance, qu'il regardait l'argent comme une pure misère, et la suppliait de n'être point en peine de cet événement.
« Je sais bien, madame, ajouta-t-il, que lorsqu'on se met au jeu, il faut courir la chance. » Et heureusement, 5 shillings ne sont pas un objet pour moi. Il y a certainement bien des gens qui n'en pourraient pas dire autant, mais grâce aux bontés de Lady Catherine de Brough, je me trouve au-dessus de ces petites choses. »
Ce discours attira l'attention de M. Wickham. Il regarda quelques instants M. Collins et demanda d'une voix basse à Elizabeth si son cousin connaissait intimement la famille de Brough. « Lady Catherine de Brough, répondit-elle, lui a depuis peu donné un bénéfice assez considérable. Je ne sais trop par qui M. Collins lui fut présenté, mais très assurément, il y a peu de temps qu'il la connaît. Vous savez sans doute que Lady Catherine de Brough et Lady Anne Darcy étaient sœurs, et que, par conséquent, elle est tante de M. Darcy.
Non, en vérité, je l'ignorais. Je ne connais point la famille de Lady Catherine, et il y a 2 jours, je ne savais même pas qu'elle existât.
Sa fille, Mademoiselle de Brough, sera très riche, et on la croit destinée à M. Darcy. » Cette nouvelle fit sourire Elizabeth en lui rappelant Mademoiselle Bingley, dont elle vit alors les espérances déçues. En vain la pauvre fille témoignait-elle tant d'affection à Mademoiselle Darcy, et à lui tant d'admiration. Que de soins inutiles, que de compliments perdus, s'il était déjà promis à une autre. Monsieur Collins, dit-elle, célèbre hautement Lady Catherine et sa fille, mais par quelques petits détails qu'il nous a donnés concernant cette dame, je crois m'apercevoir que la reconnaissance l'aveugle, et malgré toute la protection qu'elle lui accorde, je la juge une femme très vaine et très arrogante.
Je pense comme vous, reprit Wickham, voilà plusieurs années que je ne l'ai vue. Néanmoins, je me rappelle fort bien n'avoir jamais aimé ses manières hautes et insolentes. Dans le monde en général, on la croit un génie, mais je soupçonne qu'elle doit une bonne partie de cette réputation à son rang et à sa fortune, et le reste à l'orgueil de son neveu, qui n'entend pas qu'aucun de ceux qui lui appartiennent soit gens d'un esprit médiocre.
Elizabeth trouva qu'il avait raison, et ils continuèrent à causer avec une mutuelle satisfaction jusqu'à l'heure du souper, qui, succédant au jeu, obligea M. Wickham à partager ses soins entre toutes les autres dames. Les bruyants soupers de Mme Phillips n'admettaient point de conversation, mais les manières de M. Wickham suffisaient pour charmer tout le monde. Ce qu'il disait était bien dit, ce qu'il faisait avait de la grâce. Elizabeth s'en retourna tout occupée de lui. Elle ne pouvait penser durant la route qu'à M. Wickham et à ce qu'il lui avait dit. Elle n'eut garde d'en parler, car Lydia et M. Collins ne lui en laissèrent pas le temps. Lydia comptait tout haut sa perte et son gain, non sans y ajouter l'histoire de chaque coup et le nombre des fiches, et M. Collins, après le récit des attentions de M. et Mme Phillips, entra dans un détail exact de tous les plats du souper, tantôt demandant à ses cousines 1000 pardons s'il les gênait, tantôt les assurant qu'il ne pensait plus du tout à ses pertes au whist. Et il entamait d'autres discours également intéressants lorsque la voiture s'arrêta à Longbourn.